Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, on va tout à nouveau ouvrir notre Bible et je me dois de vous donner une suite à ce que nous avons évoqué il y a 3 semaines, 1 mois maintenant. Est-ce que vous vous souvenez que nous avions parlé, on avait fait une étude biblique sur les anges? Oui? Bon, enfin, il y a que ceux qui étaient là qui pouvaient me répondre. Ça se comprend. Alors, ça ne serait pas juste si je ne donnais pas la suite, c'est-à-dire, l'autre face de ce monde spirituel, de ce monde invisible. Alors, je voudrais vous rassurer, n'ayez pas peur. Nous allons parler de cette dimension spirituelle, invisible, qu'est le monde des ténèbres. Alors, on va lui donner un nom tout simplement, puisqu'on avait parlé des anges, on va parler des démons. Ça va ? Vous n'allez pas me quitter dans l'affolement. Parce que je pense que quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Voilà. La foi a remplacé nos craintes, nos peurs. Nous sommes des vainqueurs. Alors, il y a une parole juste de l'apôtre Paul qui écrira dans l'épître aux Thessaloniciens. Il dira que le monde, le mystère de l'iniquité paraît déjà. Alors c'est un terme assez particulier parce que qu'est-ce que ça veut dire l'iniquité? Qu'est-ce que veut dire le mot mystère? Eh bien justement, le sujet que nous allons aborder est environné de mystères. Autant la dimension divine, la dimension céleste, transparence, eh bien là, nous annonce des choses qui remplissent notre cœur de foi, autant l'autre aspect, eh bien, peut susciter dans le cœur des hommes, mais quand je dis le cœur des hommes, de ceux qui n'ont peut-être jamais plongé les regards dans la Bible, la révélation de Dieu. Alors on comprend. Et c'est un monde. Et pas n'importe quel monde. Alors, on va aborder le sujet, non avec une vaine curiosité en disant, oh là là, parce que vous savez que notre temps et dans tous les temps, les gens aiment bien ce qui est croustillant. Vous savez, tout ce qui est un mystère, tout ce qu'on comprend pas, et des livres ont été écrits là-dessus. Hein. Ça fait tourner le monde, ça fait peur aux gens, mais ils y retournent. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant. Alors on part dans des fausses doctrines, enfin dans toutes sortes de choses. Mais nous allons porter un regard qui doit être celui du chrétien, un regard lucide et spirituel. Et pour pouvoir, eh bien, en effet, savoir de quoi il s'en retourne avec équilibre et d'une manière saine et sainte, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il n'y a que la parole de Dieu à ouvrir. Et tout cela, c'est une introduction que je suis en train de faire avant d'aller plus loin, mais tout cela, c'est une prévention par l'enseignement pour nous prémunir de tout ce monde qui n'a pas le caractère de vérité, de justice, de droiture, de vie, mais précisément son contraire, où la Bible nous le présente, ou présente ce monde-là comme un monde de ruse, de mensonge, un monde, bien on l'a dit, d'iniquité, du mystère de l'iniquité. Alors connaître l'ennemi, ça vaut la peine. Et c'est important parce que quand il y a des pays belligérants qui se font face, qui font la guerre, alors il n'y a pas seulement le choc frontal de 2 armées, mais derrière il y a tout un état-major. Et qui fait que il apprend à découvrir. Il y a les agents secrets. Il y a les drones. Vous savez, ces avions, là, furtifs qui passent et qui essaient de repérer les terrains, etc. Il y a toutes sortes de choses. Alors, justement, précisément par rapport à cela, connaître l'ennemi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez suffisamment de textes dans la Bible pour vous en rendre compte. D'abord, il y a ses armes. Et puis, il y a également ses armées. Alors, on va en toucher 2 mots. Hein. Et puis, il y a ses forces, ses points forts, et ses faiblesses. Alors, je vous donnais tout de suite pour vous rassurer que sa faiblesse principale, c'est qu'il était vaincu déjà. On en reparlera tout à l'heure. Que dans ce monde-là, il y a finalement, eh bien, ses objectifs. Et nous devons connaître les objectifs de ce monde-là, naturellement. Et il y a ses stratégies diverses. Tantôt, il agit de cette manière. Et puis, d'un autre côté, il agira d'une autre façon. Il agit soit par la séduction, le plaisir, par la jouissance. Et puis, quand il s'agit peut-être de changer son fusil d'épaule, alors il va agir par la violence, par la tyrannie, par toutes sortes de choses. Ça vous va? C'est intéressant? Oui? Vous restez encore un peu avec moi? Bon, ben c'est bien. J'aurais pu rester tout seul quand même. Alors, on va prendre un premier texte. Le premier texte, c'est dans Éphésiens, chapitre 6. Alors là, c'est un classique des classiques, mais je pense que il faut passer par là. Donc, Éphésiens, chapitre 6. Et nous lisons au verset 10, aux quelques versets, je ne vais pas aller très très loin dans des lectures. Il est dit ceci, ça s'adresse aux chrétiens que nous sommes, c'est Paul qui est en effet eh bien celui qui écrit ces mots. Il dira, mais au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Entendez par là la dimension humaine, la dimension terrestre, la dimension charnelle, l'homme et son péché. Nous n'avons pas seulement à lutter contre cette opposition. Mais par contre, dans une autre dimension, invisible, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y en a des choses dans ce texte. La première chose que nous ayons à faire, c'est d'abord de nous revêtir des capacités que Dieu met à notre disposition et l'une d'entre elles, ô combien efficace, c'est la foi. La foi en Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il nous est révélé qu'il y a des armes pour nous. Nous ne sommes pas dépossédés, nous ne sommes pas démunis. Voire même, tous les jours, nous sommes sur le terrain d'entraînement. Par tout ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Dans un but de pouvoir tenir ferme. Parce que le coup dans cette affaire, c'est de pas s'effondrer. C'est de pas se décourager, c'est de pas se démoraliser, mais c'était encore debout envers et contre tout. Contre quoi? Contre les ruses. La ruse, c'est comme ça que ça commençait dans le jardin d'Éden. Comprenez? Ça, c'est sa vieille ficelle, vous comprenez, qu'il tire. Et puis, on l'a dit, que nous avons à lutter contre les dominations, je cite, les autorités, les princes de ce monde. Alors n'ayez pas à l'esprit d'aller mettre la révolution dans la ville. Quand il s'agit de ces dominations, de ces principautés, il ne s'agit pas d'hommes, mais il s'agit de puissances invisibles qui peuvent avoir des relais parmi les hommes. Ça, il est bien dit, prince de ce monde de ténèbres, contre, alors là, c'est dévoilé, contre des esprits. Esprits méchants, parce que leur nature, c'est la méchanceté. C'est le mal. On le verra dans les noms qui sont donnés tout à l'heure. Mais ils sont dans les lieux célestes, mais ils agissent sur la terre. Alors c'est pourquoi, conséquence, vous savez que vous avez des armes. Ce ne sont pas des armes humaines, ce sont des armes de Dieu. Et tout cela dans le but de pouvoir résister. Et non seulement de résister dans le mauvais jour, parce que dans la vie il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. On ne se fait pas trop d'inquiétude quand tout est bien. Formidable, c'est la vie est belle. Mais il y en a un, dont celui dont nous allons parler, il attaque pas quand ça va bien, il attaque quand ça va mal. Vous savez, quand physiquement vous n'êtes pas bien, vous avez attrapé la grippe, vous avez de l'arthrose, vous êtes cassé une jambe, vous avez perdu votre travail, voilà que dans votre couple, dans votre famille, ça va vraiment mal. Vous êtes en butte avec la haine et l'hostilité des autres, etc. Ça, c'est le mauvais jour. Et là, je peux vous dire qu'il met le paquet parce qu'il attendait ce moment-là pour vous régler votre compte. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté, Seigneur. On en a vu déjà. Mais tu sais, si on est encore debout, c'est pas grâce à nous, hein. C'est parce que c'est toi qui nous as tenus. Et tu as mis dans notre cœur ce sentiment, cette connaissance, cette réalité, que cet ennemi qui était mille fois plus fort que nous, que moi, eh bien je sais que par la parole de Dieu qui m'a donné de le connaître et de le savoir, par la foi, je sais qu'il est vaincu et je suis vainqueur avec toi, Seigneur. Alors c'est un monde occulte. Occulte, c'est-à-dire que c'est voilé. C'est un monde qui appartient à la dimension du mystère, du voile, des ténèbres, de quelque chose qui ne rentre pas dans la compréhension et l'entendement humain du premier coup. Et vous avez remarqué avec moi, il est hiérarchisé et il est organisé. Alors on va en parler un petit peu pour vous donner une idée. C'est une idée générale que je vais aborder ce matin, mais il faut le dire. Autant le monde de Dieu et des anges est le monde de la lumière, autant celui-ci c'est le monde des ténèbres et de l'ombre. D'ajouter ceci, c'est que c'est une contrefaçon du monde divin. Ce que Dieu fait en bien, en grâce, en salut, en bénédiction, l'autre le fait dans le mal, dans la destruction, porteur de mort, de tourment, et d'épouvante. C'est la contrefaçon. On a souvent dit que le diable était le singe de Dieu. C'est écrit, hein. Parce que il fait tout comme sauf. Sauf dans la justice, sauf dans la vérité. Et ce qu'il cherche à tromper, ce sont les hommes. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Ces moyens d'action, je vais les citer brièvement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. En quelque sorte, les manifestations auprès des hommes, pour les attirer, pour les séduire, pour les dominer, pour les ravir, eh bien, c'est l'occultisme. L'occultisme qui est présent sur toute la surface de la terre, sous une forme ou une autre, sous un regard ou sous un autre, qui se manifeste en fonction des cultures humaines, enfin culturelles, à travers les religions des hommes, à travers les superstitions des hommes, à travers les philosophies des hommes, l'occultisme, avec naturellement, eh bien, une clientèle, à travers des temples, à travers des officines, à travers des cabinets obscurs, à travers toutes sortes de choses. C'est la divination, comme l'homme a un malin plaisir à savoir ce qui va se passer demain. Alors là, ça marche très fort. Ça fait partie de ces approches de l'homme pour les séduire. L'astrologie. Ah, tous ces astres qui tournent, là, vous savez. Le signe du zodiaque, etc., etc. La magie, qui existe depuis les temps les plus anciens. Le chamanisme qui existe tellement encore dans les régions septentrionales de notre monde et même au sud hein, aussi, hein, dans toutes ces philosophies religieuses de contact avec un monde étrange, le chamanisme, les chamans dans toute l'Asie et également dans sous ces territoires de l'Amérique. Le satanisme, parce que là c'est un culte occulte, où on adore Satan, et des gens qui sont voués à l'adoration de Satan. Ils sont corps et âme, avec des prêtres, avec des officiants, avec des messes noires, à travers le vaudou, mais à travers tant d'autres choses. La sophrologie, figurez-vous. Oh, on en parle beaucoup en ce moment dans le monde. Ouais. Bah, regardez donc un petit peu plus près, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Ça vient pas de Dieu, en tous les cas. Vous trouverez peut-être que ça vient d'ailleurs, mais en tous les cas, moi, je voudrais vous dire que ça vient pas de Dieu. L'hypnoptisme. Eh oui. Vous savez qu'on glisse de plus en plus maintenant en essayant d'amadouer le phénomène et de lui donner des noms scientifiques, médicaux, etc., etc. La voyance, on a parlé de l'astrologie, la sorcellerie. Vous savez, maintenant, on n'en est plus au diable qui tourne autour d'une marmite. Hein. Bon, on fait autre chose, mais ça séduit. Hein. Le spiritisme, le magnétisme, etc., 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 etc. Et là, j'en passe. Je dirais pas des meilleurs. Hein. Alors, je vous ai parlé d'un monde hiérarchisé et organisé. À sa tête, la Bible nous parle et nous donne des noms. Parce que le nom reflète la personne, le caractère de la personne. Il y a Satan ou le diable. Je voudrais dire tout de suite que c'est une créature. Satan a été créé par Dieu. Dieu est un être incréé, mais tout le reste, comme nous l'avons vu pour les anges, ce sont des créatures, lui-même. On parlera d'ici quelques instants de ses origines. Quelques mots. C'est un être spirituel, et j'ajouterai ceci, un ange, mais un ange déchu, qui a perdu sa position, sa place et sa dignité. Il est déchu. En tant que créature, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent et omnipotent. Alors, je décode. Il ne sait pas tout, il ne peut pas tout, et il n'est pas présent partout. C'est ce qu'il dit à Dieu dans l'affaire de Job. Eh bien, moi je me promène sur la surface de la terre, allant de ci de là, et j'y ajoute pour moi personnellement, mais jetant la mort, le trouble et les ténèbres. Donc il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas tout puissant, c'est Dieu qui est tout puissant. Et nous verrons tout à l'heure qu'il est limité. Et puis, il ne sait pas tout. Maintenant, ce qu'il sait quand même, parce qu'il est dans une dimension spirituelle, eh bien, il fait quand même pas mal de mal aux hommes avec ce qu'il sait, et particulièrement à l'Église. C'est un chef d'armée d'esprit. Il en est le chef. Il a une personnalité, il a son caractère, et il a ses œuvres. On le verra. Mais je le dis, et vous allez me l'entendre peut-être dire plusieurs fois, pour vous rassurer, c'est que c'est un être corrompu, et si vous voulez que ça rime, c'est un être vaincu. Parce que tout le plan de la rédemption, tout le sacrifice de Jésus à la croix, depuis le jardin d'Éden de cette fameuse promesse où Dieu dit « Je sauverai l'humanité », eh bien il est vaincu depuis ce moment-là. Mais ça prend quand même tout l'espace de la Bible, hein, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On verra comment il va finir aussi. Et puis nous aborderons les membres de son armée que sont les démons. On appelle ça en théologie la démonologie. Alors faut pas exagérer la compréhension des choses, parce qu'il y a même des chrétiens qui sont tombés dans toutes sortes de rêves et de spéculations qui, quelque part, ne glorifient pas Dieu, mais fait l'affaire du diable. Dans le monde dans lequel nous vivons, soit les gens ne croient pas du tout en Dieu, dans le diable, et ça fait son affaire parce qu'il agit d'une manière surprenante dans l'anonymat. Il peut faire tout ce qu'il veut. Vous savez, cet ennemi qui vient de nuit, qui jette l'ivraie parmi le bon grain. Personne ne croit en moi. Oh, j'ai les mains libres, je peux faire tout ce que je veux. Ou alors, à ce moment-là, il va jeter le trouble dans l'esprit des hommes, où les hommes vont voir le diable partout, là où il n'est pas. C'est pour ça qu'il faut rester équilibré dans tout ça. Hein. Vous savez, le grand danger de la doctrine des anges, comme nous l'avons vu il y a 3 semaines, c'est d'amener les chrétiens à les adorer. Le culte des anges. Eh bien là, c'est la même chose. Soit on croit pas du tout, et puis là, finalement, eh bien, je l'ai dit, il fait ce qu'il veut, ou alors d'avoir de le voir partout. Alors restons équilibrés. Et puis nous verrons également la destination finale du diable, parce que il y a quelque chose qui lui a été préparé, hein. Et c'est bien tout l'enjeu de combat, cette lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu, créateur des hommes, un Dieu qui aime les hommes pour les sauver pour l'éternité, et le diable qui veut séduire les hommes pour les amener à l'adorer et à l'entraîner avec lui dans la perdition éternelle. Je schématise. Et puis, dans l'histoire du monde, et dans l'histoire de la Bible que raconte l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, il y a, on pourrait dire, c'est son deuxième pas. Je vous parlerai pas du premier, parce que j'aurai pas le temps ce matin. Mais de son deuxième pas, qui était le jardin d'Éden, pour faire sortir l'homme de ce contexte où Dieu l'avait mis pour le bénir. Il y a toute l'histoire du peuple juif, qui a été en butte pendant des siècles et des siècles, dans le malheur ou dans la tentation, pour finalement échapper à Dieu. Tout son travail du diable. Et puis il y a la croix et la résurrection. C'est le plus simple, c'est le principal, c'est ce que nous devons retenir au sein de notre existence terrestre. Et puis il y a le retour de Jésus-Christ aussi, où là, on voit qu'il y a une trinité qui va apparaître. On en a parlé longuement, hein. Voilà. Comme il y a une trinité divine, il y a une trinité diabolique. Et puis il y a Hermageddon. C'est là où véritablement le coup de grâce sera donné. Hermageddon. Comprenez? Après, il y a le millénium, où là, il va être prisonnier. Lui qui emprisonne les autres, c'est lui qui va être emprisonné. Et puis, à la fin du millénium, ce que l'on peut appeler les temps de soufre et de feu. Lui et ses anges, et tous ceux qui l'auront suivi parmi l'humanité. Alors, c'était un petit rappel de tout ça. C'est des choses qu'il faut se souvenir. Alors, on va reprendre brièvement. Je rappelle que le diable est une créature. Il n'est pas Dieu. C'est une créature. Mais à ce titre, pour nous le montrer, parce qu'il y a quand même un peu de texte sur l'origine du diable, hein, il y en a deux. Il y a le livre d'Ézéchiel, il y a le livre d'Ésaïe. Et on va faire une lecture qui peut être intéressante sans perdre trop de temps parce que c'est une doctrine. Oh là là, comme les autres d'ailleurs. On pourrait y passer des jours et des jours. Dans le livre d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel, au chapitre 28, on va lire un texte. Pour que les hommes comprennent, pour que nous puissions comprendre, nous qui sommes des êtres humains, avec une compréhension limitée, l'image des origines du diable est présentée sous l'image d'un roi, qui s'appelle le roi de Tyr. Alors on va lire cela. Ézéchiel, chapitre 28, et à partir du verset 12, voilà. C'est le prophète qui parle et qui nous interpelle. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. La musique, hein. Retenez bien ça. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Les raisons. Ton corps s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu. Ça, c'est un terme qui te dévore. je te réduis en cendres sur la terre. Rayon d'action, hein, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voilà un des premiers textes que nous avons. Nous allons lire dans prophète Ésaïe maintenant, chapitre 14. Alors, Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Lucifer, ange de lumière, je précise, hein. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Imaginez-vous ce que ça peut comporter, hein. Vainqueur des nations par le péché. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyrai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire sur le haut de la terre. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors, comment comprendre cela? C'est sous l'image, je le répète, d'un roi, d'un grand roi de ce temps-là, qu'Ézéchiel va recevoir cette vision de Dieu sur l'origine de celui qui s'appelle Satan et le diable. C'est au travers, finalement, de ces deux textes, parce que il n'y en a pas trop, d'autres, nous pouvons dire que c'est Dieu qui a créé Satan, ou qui portait à ce moment-là le terme beaucoup plus significatif d'ange de lumière, astre de l'aurore, nous l'avons lu tout à l'heure. Cet ange, ce chérubin, a été créé pour servir Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Dans Ézéchiel. Il était donc un chérubin protecteur, bien, c'est-à-dire dans la hiérarchie, comme il y avait une hiérarchie parmi les anges, les archanges, chérubins, séraphins, les anges d'une manière ou d'une autre, etc. Il y a une hiérarchie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Chérubin protecteur, astre brillant, donc Lucifer, fils de l'aurore. Dans Ésaïe, il nous est dit qu'il était plein de sagesse et parfait en beauté. Ouais. Qu'il avait une position d'autorité dans le ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul, passant et tout en étant averti de la chute de Satan, nous parlera et écrira dans Éphésiens chapitre 6, le premier texte que nous avons vu, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des principautés, des dominations et des esprits célestes, dans les esprits méchants dans les lieux célestes. Une autorité, le diable. Je reviens sur la notion d'ange qu'il était pour devenir un ange déchu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est parlé de sa beauté. Il est parlé de ses privilèges immenses et inimaginables au moment de sa création. On a fait allusion à la musique. Vous savez qu'il y a une musique céleste. Il y a une musique diabolique. Hein. Elle est particulièrement utilisée hein, dans notre temps, la musique diabolique. Pour enfiévrer, pour enivrer, pour exciter, pour endormir. Ça fait partie des composantes. Donc, son orgueil a poussé cet être à vouloir prendre la place de Dieu. C'est bien écrit. À s'élever au niveau de Dieu jusqu'à s'asseoir, comme dit Paul dans Thessaloniciens, jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu, dans le temple de Dieu. Thessaloniciens, je cite de mémoire. Et pour se prendre pour Dieu. C'est incompréhensible, cette histoire. C'est incompréhensible, parce que, pour un chrétien, Dieu est Dieu, c'est tout. Comment se fait-il qu'un être créé puisse avoir non pas les yeux fixés sur son créateur pour l'adorer, mais à un moment donné, avoir les yeux fixés sur lui pour s'adorer lui-même et se faire adorer de tous ceux qui le remarqueront comme un être supérieur, un être en beauté, un être en sagesse. C'est curieux, hein. C'est le triomphe de l'ego, hein. Au lieu que ça soit projeté sur Dieu, qui est le seul adorable, admirable, le seul qui soit, eh bien, à ce moment-là, de regarder vers soi, de dire, mais, waouh, qu'est-ce que je suis beau! C'est pas pour moi que je le dis, hein. Et de ramener les choses à soi-même. Ou d'adorer son semblable. C'est pour ça qu'on parle d'idole. Vous comprenez la notion d'idole? Idole vivante. À travers des hommes. Parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont quelque chose. Et le monde entier fonctionne avec ça, hein. Ça le rend fou d'ailleurs. L'idolâtrie, c'est une raison. Ou alors une idolâtrie spirituelle. Nous avons parlé de satanisme spirituiste et toutes sortes de choses. On s'adresse dans les sociétés secrètes, directement au diable. Et moi, je crois qu'il le voit. Hein. À travers toutes sortes de puissances manifestées dans ce contexte-là. Ou alors on s'adore soi-même. On devient des Adonis, vous savez, la beauté. C'était sa beauté, il nous est dit. C'était une sagesse qui s'est corrompue. C'est pour ça que Jacques dira, mais la vraie sagesse, eh bien, elle vient de Dieu. Elle est pacifique, elle est pleine d'amour, elle est dans la justice, etc. Elle est humble, elle est modeste. Mais la fausse sagesse, elle est humaine, elle est charnelle. Et à un moment donné, Jacques nous dira au chapitre 4, elle est diabolique. Alors c'est son orgueil qui l'a poussé donc dans cette direction. Et ainsi, il a péché contre Dieu de ne plus avoir les regards vers son Créateur Dieu, mais d'avoir les regards sur lui-même. Et de rayonner, astre de lumière, pour dire au monde angélique, regardez, c'est moi qui suis Dieu. Moi, je suis semblable au Tout-Puissant. Alors, on se révolte. C'était le premier pas que je vous ai pas parlé tout à l'heure et on en verra ça parce que c'est très compliqué. Parce qu'avant d'avoir le jardin d'Éden sur la terre, il y a eu, dans le monde cosmique de Dieu, la lutte, la révolte de Satan contre Dieu qui a entraîné des myriades d'anges avec lui qui sont devenus des démons. Ça va, quand même? Alors, ainsi, le diable a péché contre Dieu et a été précipité du ciel. Il a été précipité du ciel parce qu'il s'est révolté. Eh, mais le ciel, il existe toujours. Eh, le ciel, il y a le ciel atmosphérique. Il y a une deuxième dimension du ciel. N'en faites pas une théologie, hein. Bon, c'est des pensées personnelles, mais bon, je peux les livrer parce que je crois qu'elles sont pas... Elles sont pas de... Bon, il y a cette dimension où il y a là où règnent des puissances mauvaises. Comprenez? C'est un monde invisible. C'est un repère. C'est une affection. Et puis il y a le ciel de Dieu, que l'on pourrait dire le paradis. Voilà. Je passe, hein. Il a été précipité hors du ciel pour tomber dans ce ciel à lui, ce ciel de l'enfer, en quelque sorte. Mais il est descendu mettre les pieds aussi sur terre. Parce que pourquoi il est descendu mettre les pieds sur terre? Pour la bonne raison qu'il voulait défier Dieu en corrompant sa créature que nous sommes. Jardin d'Éden, chapitre 3. Pour voir si ça marche avec les anges, ça pouvait marcher avec les hommes. Oh, ça marchait. Malheureusement, on ne serait pas là aujourd'hui si ça n'avait pas marché. On serait dans une autre dimension, hein. Et dans sa chute, il a entraîné dans un premier temps les anges avec lui. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, parce que bon, on peut citer quand même quelques versets. Et au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, il nous est parlé justement de ce phénomène en quelques mots, hein, c'est pas très... Il nous est dit ceci, qu'il y a eu une lutte entre les anges de Dieu et les anges, les démons. Il nous est dit qu'au verset 8, il nous est dit qu'ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est ce que nous disons il y a un instant, hein. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, c'est pour ça que c'est ça, c'est véritablement, eh bien là, son rayon d'action, il fut précipité sur la terre avec ses anges, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà un petit peu le tableau. On l'a dit tout à l'heure, il est le chef des démons. Un anse déchu, chef des démons. Il est devenu un prince. Il est devenu un roi, en quelque sorte, dans une sphère où il exerce son hégémonie de tourment, de mort, de peur, de destruction. La guerre des hommes, elle ne vient pas pour rien. Tous les sentiments qu'il y a dans le cœur des hommes, les sentiments mauvais, ils sont inspirés de quelque chose. Il y a la prise dans l'homme, parce que nous avons donné une prise. Mais lui, je peux vous dire que toutes les dépravations, toutes les corruptions, toutes les souillures, tout ce qu'il peut y avoir d'impossible, d'innommable et d'infernal, eh bien, il l'a répandu, hein, en quelque sorte. Il a fait de ce monde, je dis bien de ce monde, le monde lui-même, je ne parle pas de l'humanité, mais véritablement la poubelle, en quelque sorte. Donc, ange déçu, appelé démon, et d'ailleurs le nom est donné, puisque les détracteurs de Jésus, qui n'étaient autres que des gens religieux, qui auraient dû croire en Dieu, mais qui ne croyaient pas en Dieu, qui croyaient plus en leur père, qui était le diable, Jésus va leur casser, la baraque, en quelque sorte, il va leur dire, mais vous avez pour père le diable, parce que les sentiments qui sont en vous, ce ne sont pas des sentiments d'amour, ce sont des sentiments de mort, vous voulez me mettre à mort parce que je vous ai dit la vérité. Et à un moment donné, dans un autre texte, dans Luc, il me semble, il nous est parlé, mais la perfidie de ces gens, qui s'était fait l'allié du diable tout en croyant être l'ami de Dieu, c'est par Belzébul, hein, vous connaissez, hein, le dieu du fumier, parce que c'est ça la traduction en hébreu, le dieu du fumier. Eh bien, c'est par Belzébul que finalement Jésus chasse les démons. Outrage. Calomnie. Alors, ces noms que nous allons voir, je passais rapidement, eh bien, en quelque sorte, reflètent la personnalité du diable, son caractère et ses œuvres. Satan signifie adversaire. Il est l'adversaire de Dieu et il est l'adversaire de la créature, la création de Dieu, tant dans la créature humaine que nous sommes que tout le reste. C'est l'ennemi de Dieu et c'est notre ennemi. Mais comment savoir qu'il est notre ennemi quand nous n'avons pas été éclairés par l'Évangile? C'est l'Évangile qui nous a donné la connaissance de tout cela. Il n'y a pas d'autres bouquins qui peuvent nous dire ce que c'est. Surtout pas les livres ésotériques, hein. Au contraire, ils vont vous le montrer d'une manière tout autre. Je l'ai dit et je répète, il est appelé aussi le diable, dans Matthieu, chapitre 4, etc. C'est lui, il nous a dit que le diable vint vers Jésus et le tenta pendant 40 jours. D'accord? Il est appelé aussi le calomniateur, à travers la bouche de ces gens qui parlaient de Jésus comme travaillant pour Zébelzébul. C'est de la calomnie, c'est de l'outrage. Parce que le diable diffame Dieu. Il est appelé le serpent, également, à la fois dans l'Apocalypse, à la fin, et à ses origines, dans le Jardin d'Éden. Le serpent vint vers Ève, c'était le plus rusé de tous les animaux. Il nous est dit qu'il est aussi, avec un adjectif, le serpent ancien, celui du commencement. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'il s'est présenté, donc, à nos premiers parents. Dans l'Apocalypse également, il nous est parlé qu'il se présente sous le dragon, être fantasmagorique, épouvantable. Il est aussi présenté comme le lion rugissant. Le serpent, c'est la ruse, c'est l'aspect sournois de son approche pour faire tomber ou pour faire mourir. Et le lion rugissant, c'est celui qui jette l'effroi, la terreur et l'angoisse. À cause de son rugissement, à cause de ce cri que peut représenter finalement, eh bien, cet animal qu'est le lion. Cela exprime sa férocité. Il a des dents. Le serpent a des crocs pour, d'une manière insidieuse, donner la mort par l'intérieur du corps, et le lion avec des dents acérées pour déchirer sa proie. Férocité. Il est l'accusateur également. C'est-à-dire, c'est celui qui accuse les chrétiens. Je dis, frères et sœurs, demandez à Dieu qu'il vous donne le discernement de la vraie et de la fausse culpabilité. C'est fondamental pour votre paix, votre bonheur et votre repos. Parce que sans cesse, depuis que vous êtes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, il y a la vraie culpabilité que le Saint-Esprit nous montre. Et là, vous savez ce qu'il faut faire. Parce que nous avons un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui nous libère. un Dieu de miséricorde. Mais quand il s'agit de la fausse culpabilité, que de tourments dans la conscience des enfants de Dieu et de troubles dans leur esprit. Tu vois, tu crois que ton Dieu, il t'aime? Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu penses? Avec toute ton histoire, tout ton passé? Et il revient. Et si par malheur, nous avons quelquefois mis les pieds à côté, je peux vous dire. Alors là, il y va, parce qu'il a peut-être des éléments vrais, peut-être, mais je peux vous dire qu'il nous laisse exsangue. Plus envie de prier, plus envie de lire la Bible, plus envie de faire le dire que, est-ce que je dois prendre la Sainte Cène ce midi? Ah, oh, je suis tellement sale. Et le diable vous dit, mais vraiment, t'es sale! Oh, tu peux pas t'imaginer ce que tu peux être pourri de l'intérieur. Fausse culpabilité, c'est dans la foi en Jésus-Christ que vous allez prendre la victoire, mes frères et sœurs. Vous avez été pardonnés, on était blanchis, on était lavés par le sang de Christ. Et là, faut le tenir, hein, parce que ça fait fermer la bouche. Enfin, je ne sais pas quel mot je voulais dire. Ça fait fermer, justement, eh bien, le diable, ça lui fait fermer la bouche. Hein. Il est appelé le tentateur également. Il est appelé le séducteur. Celui qui vient en vous faisant les yeux doux. Eh oui. Tu sais, il va vous vanter le beau. Même ce qui est laid, il va vous le faire passer pour du beau. Ouais, remarquez le monde, il marche avec ça. Il y a des choses qui sont pas belles dans le monde, qui sont hideuses, et les gens disent « Ah, c'est beau !» Ouh, dans les arts et dans toutes sortes de choses. Et les gens mordent à l'hameçon, parce que ça fait partie du conformisme ambiant, si on dit le contraire de ceux des autres. Eh oui, c'est comme ça. Il dénature, il déforme, il est en train de casser la création de Dieu en disant « Mais aujourd'hui, mais c'est normal, c'est vous qui êtes des anormaux de ne pas penser que ce qui est à la mode, ce qui fait évoluer la société, eh bien, bon, je m'arrête. Il est le menteur et le meurtrier. Dixit, Jésus, chapitre 8, Jean, chapitre 8, verset 44. Depuis le commencement, il nous faut prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez souvent des vessies, vous? C'est un peu gros, hein, comme affaire. Il est le prince de ce monde. Il est le prince du monde. Pas seulement de ce monde, mais du monde. Il est le Dieu de ce siècle, comme nous dit l'apôtre Paul, qui aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne puissent pas comprendre le merveilleux salut en Jésus-Christ. Il renferme les hommes dans l'incrédulité et il met un voile devant leurs yeux et sur leur cœur. Ouais, Dieu de ce siècle. Il se déguise en ange de lumière qu'il était auparavant, mais là, la lumière, eh bien, a été complètement dénaturée en ténèbres. Ouais. Et il a des serviteurs, cet ange de lumière, à travers l'occultisme, à travers tous ces agents qui trafiquent l'occultisme pour faire passer l'occultisme comme si c'était une vérité, comme si c'était la promesse du bonheur venant de Dieu. Il est le prince de la puissance de l'air, on le voit pas, mais il est là. Quand je dis il est là, attention, hein. Vous savez ce qui est là aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus. Hein. Non, parce que attention, hein. On va mettre un gardien à la porte. Hein. Puis il est dans... Le Seigneur, il est dans nos cœurs à chacun, hein. D'accord? Il est dans nos maisons, il est en permanence, le Seigneur. Hein. Mais il est là dans le monde, hein, naturellement. Vous avez remarqué avec moi, ces noms nous montrent l'étendue de son influence néfaste sur le monde. Eh, ça se comprend. On a parlé, il s'appelle aussi Belzébul, hein, tout simplement. Et il s'appelle aussi Bélial. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle l'écrit de Paul aux Corinthiens? Quand il dit, mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, quel rapport y a-t-il entre Dieu, entre Christ et Bélial? Bélial, c'est l'image de ce diable hideux, vous savez, peut-être avec une tête de, enfin bon, une tête de démon forcément, tête d'animal, vous savez, complètement déformé. Je passe. Alors, selon toutes ces, comment dire, toutes ces appellations, nous pouvons dire que Satan est un être puissant, intelligent, séducteur et rusé, et qui n'a rien à voir avec les images que Épinal et tout le reste nous donnent, vous savez. Moi, je l'ai dit l'autre jour, mais on nous montre de plus en plus, on nourrit nos enfants avec des films de plus en plus où on va vers l'étrange, vers le ténébreux, vers des choses qui sont à peine voilées, pour faire peur et corrompre la conscience de nos enfants et de nos petits. Hein. Il y en a plein là en ce moment, mais ça foisonne. C'est un nouveau cinéma, hein. C'est triste. Mais même s'il est puissant, même s'il est intelligent, mais il n'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. C'est pour ça que nous voyons. Je donne une note également, je ne sais pas si je vais pouvoir finir, hein, parce que bon, il y a tellement de choses. Bien qu'actuellement, agissant dans le monde, parce qu'on se dit, mais bon, normalement, il ne devrait plus être là, hein, puisque Jésus l'a vaincu. Eh bien, nous apercevons qu'il est encore là, parce que les étapes ont été franchies, chassées, ensuite vaincu à la croix du calvaire, à Golgotha, victoire sur la mort, Christ est ressuscité, puis nous arrivons bientôt dans la dernière phase, parce que je crois que nous sommes arrivés à la fin des temps, mais une chose qui est certaine, même s'il agit encore dans le monde, sur ce monde, parmi les hommes de ce monde, il est vaincu. Et son pouvoir est limité. Nous le voyons. Dieu lui donne des limites. Hein. À Job, laisse-le moi entre des mains, ton Job, tu vas voir ce que je vais en faire. Dieu lui dit non, tu vas pas plus loin que ce que je te dis. Donc Dieu est souverain sur le diable. N'ayez pas peur. Et vous, vous appartenez pas au diable. Vous êtes convertis, vous appartenez à Jésus-Christ, vous appartenez à Dieu. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Nous dit l'apôtre également. Jésus est venu nous délivrer des œuvres du diable, nous rapporte différents textes. Il l'a vaincu à la croix. Et il y a cette parole du livre de la Genèse, parce que ça, c'était le grand défi de Dieu au diable. Quand il est dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Eh bien, moi, je voudrais vous dire que la tête, pensante, intelligente, puissante, tout ce que vous voudrez, eh bien, de l'ennemi a été écrasé par Jésus à la croix du calvaire. C'est la première promesse de salut que nous avons dans l'histoire de la Bible, déjà au tout début, chapitre 3 de la Genèse. Il est vaincu, et sa destination finale, et je vais en toucher deux mots maintenant, eh bien, c'est d'être jeté dans le feu et dans le soufre de l'étang, qui est l'étang de la mort. Quelques mots encore sur les démons. Qui sont-ils? Leur origine, autant que leur chef, ce sont des créatures de Dieu, mais qui ont péché, au même titre que Satan, et qui ont été entraînés. Ils ont suivi le mensonge et la séduction. Les démons sont des anges qui ont perdu leur place et qui ont choisi de suivre Satan. Ils ont péché, comme nous dit l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 2, vous le regarderez, et ils n'ont pas gardé leur rang et leur dignité, ajoute le livre de Jude au verset 6. Ils ont pour chef, celui dont nous avons parlé longuement tout à l'heure, leurs caractéristiques brèves. Ce sont des esprits, c'est Matthieu qui le dit. Ils sont méchants, Éphésiens, esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des esprits mauvais. Il nous est dit que le roi Saül a été animé d'un esprit mauvais, vous savez, quand il a voulu ficher David sur la paroi à travers une lance. Il avait des esprits de mort à l'intérieur de lui-même, le roi Saül. Ce sont des esprits impurs. Ça nous est dit dans l'évangile de Marc, quand il nous est dit une femme, un homme, là, avait des esprits impurs en lui. Ils séduisent et surtout ils inspirent de fausses doctrines. Je vous ai dit qu'ils ont une intelligence perverse. Et si ils peuvent dénaturer ce que Dieu a dit, puisque c'est le premier travail du diable, à Ève, est-ce que Dieu aurait réellement dit? Ça continue aujourd'hui. À travers des sciences occultes, des livres d'inspiration ésotérique, toutes sortes de choses. Et voire même l'ennemi principal du diable et des démons, c'est de corrompre la parole de Dieu à travers des fausses doctrines. C'est pour ça que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous apercevez, Ancien Testament, c'est les faux prophètes, Nouveau Testament, ce sont, eh bien là, tous ces faux docteurs qui viennent, qui prennent un texte de la Bible et qui sont en train de le modifier et de faire croire à des aberrations. Hélas, notre christianisme historique reflète véritablement tout cela en déviant ou en édulcorant la parole de Dieu, où il faut passer pour s'approcher de Dieu, et bien par ainsi, ceci et cela, alors que Jésus nous dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tout simplement. Enfin, c'est une citation qui me vient comme ça. Les fausses doctrines viennent du diable. Des esprits séducteurs, prescrivant de ne plus se marier. Prescrivant de se marier, mais... Enfin, toutes sortes de choses, voilà. Et de prendre possession d'êtres humains non régénérés, parce que ce sont les gens non convertis qu'ils touchent. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est différent. Et voire même prendre possession d'animaux, vous savez, les pourceaux, là, vous savez. Il nous est dit que les démons sont rentrés dans les pourceaux et se noyaient dans la mer. Ils sont doués d'intelligence, on l'a déjà dit. On le voit dans un cas où les fils de Séva veulent chasser les démons d'un homme et qu'ils ont l'intelligence de savoir finalement, qui est Jésus, hein. Et ils citent le nom, hein. Ils ont une force surnaturelle. C'est l'histoire de l'homme de Gadara qu'on ne pouvait lier. Ils sont vaincus par Jésus qui a une autorité sur eux. Et c'est Jésus qui les chasse. Très souvent dans l'évangile, il nous est dit, Jésus chassa le démon. Tout simplement. C'est tout un monde. Je termine. Comme ça fait deux fois que je dis que je termine, je vais quand même terminer. À moins que vous me reteniez, que vous me dites continuer. Bon. Leur fin, c'est intéressant. Leur fin. Après avoir, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin, dans la version corrompue, infernale, démoniaque et mortelle, ils ont joué un rôle à travers toute l'histoire. Si vous imprégnez de l'histoire du peuple d'Israël, confronté avec les puissances mauvaises, ou voir sortir des hommes pieux, vous savez, des hommes comme David, des hommes comme Samuel, des belles figures qui vont tenir la foi, vous comprenez, qui vont continuer à ramener le peuple dans le droit chemin. C'est à la bataille d'Hermageddon que les choses vont être véritablement réglées. Juste avant la bataille d'Hermageddon, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit qu'il va y avoir l'émergence de la trinité diabolique. Le diable, l'antéchrist, la bête, faux prophète, enfin, bon, il y a des mots qui vont ensemble. Et qu'à ce moment-là, il va croire avoir vaincu Dieu et de prendre la victoire totale pour étendre son hégémonie tyrannique, diabolique, infernale sur le monde entier. Et c'est à ce moment-là que il jouera sa dernière carte. Et dans la bataille d'Hermageddon, eh bien, il va être pris, lui, ses anges et tous ses acolytes. Et il sera saisi. Et quand il sera saisi à ce moment-là, une nouvelle ère que l'on appelle le millénium va prendre son essor et lui, il sera à côté pour l'instant. Il sera lié, nous dit le... Mais, à la fin des 1000 ans, il nous est dit qu'un ange puissant de Dieu va le délier. Et là, ça sera la fin de la fin pour lui. Hein. Et il sera jeté dans le temps de soufre. Ils iront tous dans un feu éternel. Le diable, les démons, toutes ses puissances, ses autorités, ses principautés, et avec les nations qui l'auront suivi, qui auront été séduits, ceux qui porteront la marque de la bête. Nous portons le sceau de Dieu, le signe de Dieu. C'est pas pareil, hein? Faites la nuance entre le signe et la marque, hein? Et ils iront dans un feu éternel, et ils y seront jugés à toujours, définitivement. Une dernière phrase. Jésus nous dit bien. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair dans Luc. C'est Jésus le grand vainqueur. Et Jésus le grand vainqueur est confirmé par cette dernière parole que j'ai voulu mettre au terme de cette étude sur la démonologie. C'est qu'il nous est dit que Jésus, le Fils de Dieu, a paru pour détruire. Je dis bien détruire, vaincre, neutraliser, supprimer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, bénissons le Seigneur d'être du bon côté. Hein. Bénissons le Seigneur de connaître sa grâce, de connaître sa parole et de nous laisser conduire surtout et surtout à la lumière de son esprit. Parce que là, un chrétien, nous sommes dans une dimension qui est une dimension spirituelle. Et nous venons de parler d'une dimension spirituelle. Alors attention, on va prier maintenant et on va demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur chacun d'entre nous, sur son Église, et ayons le discernement, la perspicacité et l'acuité de la vie de l'Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce message. Merci Seigneur pour ce que tu nous rappelles que dans le ciel il y a des habitants. des habitants, Seigneur, qui ne sont pas rendus semblables à nous parce que nous sommes, eh bien, des êtres enfermés dans un corps qui est peut-être parfois une prison, un corps souffrant, mais où, Seigneur, tu nous as fait la grâce d'être des rachetés, et nous pouvons, en effet, nous t'appeler, nous qui sommes sur la terre, eh bien, notre Père qui es aux cieux. Et notre Père, c'est celui qui nous sauve, celui qui nous aime. Et nous t'en bénissons et nous te remercions et te dire, parce que l'adoration, Seigneur, devant toutes ces études, les anges adoraient Dieu. Les démons veulent se faire adorer. Mais les hommes convertis à Jésus-Christ, adorent notre Père Céleste et son Fils, Sauveur Jésus-Christ. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce. Donne-nous, Père éternel, de comprendre un petit peu cette étude, et ainsi, Seigneur, de mesurer, Seigneur, l'abîme dans lequel nous étions avant de te connaître, et toi qui nous as fait monter sur les hauteurs de la montagne de Dieu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors, Seigneur, nous croyons que si le diable a chuté, s'il a été précipité vers le bas, eh bien, il continue à faire son œuvre pour précipiter encore des hommes à le suivre vers le bas. Mais les enfants de Dieu, ils vont vers le haut. Et nous t'en bénissons. Où nous pourrons contempler, Seigneur, contempler à merveille, être dans une admiration, Seigneur, qui n'a pas d'expression, qui n'a pas de mots, eh bien la gloire, le rayonnement, la souveraineté, la royauté, la magnificence de notre Dieu et de son Christ. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour la vérité et la lumière qui est en Christ. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.